Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La démission de Robert Mugabe, le président zimbabwéen en place depuis 1980, quitte le pouvoir. Des milliers de manifestants réclamaient son départ dans les rues de Harare. L'Iran ne cherche pas à dominer le Moyen-Orient, déclare Hassan Rouhani. Le président iranien souligne l'importance de préserver la stabilité au Liban et se dit prêt à un rapprochement avec la France, analyse de Valérie Crova. Le président allemand met tout son poids dans la balance pour éviter l'organisation d'élections anticipées. Franz-Walter Steinmeier rencontre les uns après les autres les responsables des partis. Édouard Philippe, au congrès des maires de France, le Premier ministre a répondu point par point aux inquiétudes des élus. Une méthode plutôt appréciée, nous dira Stéphane Robert. Robert Mugabe a démissionné. Le président du Zimbabwe a cédé à la pression des militaires. L'annonce de son départ a été accueillie par des cris de joie dans les rues de Harare où des milliers de personnes s'étaient rassemblées. Le récit de Valentine Rioux depuis la capitale du Zimbabwe.
Les parlementaires zimbabwéens étaient réunis en pleine session extraordinaire pour examiner une proposition de motion de censure contre Robert Mugabe quand soudain des cris de joie ont explosé à l'intérieur de la salle. Le président de l'Assemblée prend la parole, une lettre à la main. C'est la démission de Robert Mugabe qu'il annonce. Après deux jours de torpeur, c'est l'explosion de joie dans la capitale Harare. Les parlementaires et ceux qui assistaient à cette session extraordinaire se précipitent hors de la salle comme un seul homme. Le président a fini par jeter l'éponge alors qu'on pensait être engagé dans un long processus légal. À la sortie, les députés ont sur le visage un air incrédule et affichent de larges sourires pendant que la foule se disperse en hurlant. La clameur a maintenant gagné toute la ville et toute la population qui attendait ce moment depuis maintenant une semaine. Robert Mugabe se sera accroché longtemps au pouvoir qui lui échappait. Dimanche, lors d'une allocution à la télévision, le président avait finalement refusé d'annoncer sa démission alors qu'il avait été exclu de son parti le jour même. Pour les Zimbabwéens, c'est l'espoir d'une nouvelle ère après 37 ans de règne sans partage du président Mugabe.
Pour Marianne Séverin, politologue chercheuse associée au laboratoire Les Afriques dans le monde, il faut rester prudent sur l'avenir du pays après le départ de Robert Mugabe.
C'est la fin de l'ère Mugabe, mais ce n'est pas la fin du système en tant que tel, parce que nous sommes toujours dans un contexte de quasiment parti unique, avec les mêmes personnes, les mêmes leaders politiques qui étaient proches de Mugabe. Et la question maintenant qu'il faudra voir, si on va rentrer dans une sorte de transition démocratique, si l'armée va rentrer dans sa caserne, si l'opposition va pouvoir discuter avec finalement le gouvernement intérimaire et s'il y aura des élections en avril 2018 et surtout des élections libres, transparentes et démocratiques surtout.
Est-ce qu'il y a, vous parlez d'opposition, il y a une opposition réellement structurée à même de prendre le relais ?
En août dernier, il y a eu une grande coalition de l'opposition qui s'était formée justement pour préparer les prochaines élections. On va voir si la donne ne va pas un peu changer parce que, en fait, cette coalition a été créée en prévision de rentrer en compétition politique face à Robert Mugabe. Maintenant qu'il est parti, il faudra réfléchir autrement et non plus réfléchir en termes de compétition contre Robert Mugabe, mais contre justement le système qui perdure.
La politologue Marianne Séverin répondait aux questions de Marie-Pierre Véraud. Un attentat au camion piégé a frappé Tuz Kurmato dans le nord de l'Irak. 23 personnes ont été tuées et 60 blessées. L'explosion s'est produite sur le marché aux légumes de cette ville qui se trouve au sud-est de Kirkuk. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle fait penser à une action de l'État islamique. L'organisation dont le premier ministre irakien affirme cet après-midi qu'elle a été chassée du pays. Le président iranien a lui aussi proclamé la fin de l'État islamique aujourd'hui. Bien sûr, il restera des vestiges, déclare Hassan Rouhani, mais le socle et les racines ont été détruits. Le président iranien doit rencontrer demain ses homologues russes et turcs pour discuter du conflit syrien. En amont de ce sommet de Sotchi, il a parlé au téléphone avec Emmanuel Macron. L'Iran ne cherche pas à dominer le Moyen-Orient, a notamment dit Hassan Rouhani à son homologue français. Un entretien qui ressemble à une clarification après les récentes prises de position de la France demandant à l'Iran d'avoir une position moins agressive au Proche-Orient, Valérie Crova.
dire que les récentes déclarations d'Emmanuel Macron à Dubaï et de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à Riyad, ont heurté les susceptibilités iraniennes est un euphémisme. Tandis que le chef de l'État évoquait l'ouverture de discussions sur le programme balistique iranien après le tir d'un missile sur Riyad, imputé à l'Iran depuis le Yémen, le second dénonçait les tentations hégémoniques de Téhéran au Moyen-Orient. Allusion au conflit en Irak et en Syrie, mais aussi et surtout à la présence du Hezbollah au Liban, principal point de crispation entre Saad Hariri et le prince héritier saoudien. C'était avant que la France ne fasse venir le premier ministre libanais sur son sol pour tenter de trouver une issue à la crise qui l'oppose à Mohamed Ben Salman. Même si la France donne des signes de durcissement vis-à-vis de Téhéran, les liens n'ont jamais été rompus. La République islamique représente un marché de 80 millions d'habitants sur lequel lorgnent les entreprises françaises. Les propos d'Hassan Rouhani sonnent donc comme une mise au point à l'adresse d'Emmanuel Macron qui doit se rendre en Iran courant 2018. La France doit faire preuve de réalisme et d'impartialité, lui a dit le président iranien, qui a salué les efforts de Paris pour renforcer l'accord sur le nucléaire que Donald Trump voudrait remettre en cause, tout en insistant sur l'importance du Hezbollah soutenu par Téhéran. Un message adressé aux Saoudiens qui n'ont de cesse de dénoncer la mainmise du mouvement chiite sur le Liban.
Le Premier ministre démissionnaire Saad Hariri devrait se rendre demain au Liban, le jour de la fête nationale. Après son court séjour en France, Saad Hariri vient d'arriver au Caire où il doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. En Allemagne, le poids politique du président est assez modeste, mais avec l'échec des négociations pour former une coalition gouvernementale, Frank-Walter Steinmeier se retrouve en première ligne. Puisque la chancelière Angela Merkel n'a pas réussi à s'entendre avec les libéraux et les écologistes, c'est maintenant le président qui rencontre tour à tour les responsables des partis et qui fait tout son possible pour éviter l'organisation de nouvelles élections. Cyril Sauvageau, vous suivez la crise politique allemande depuis Berlin, bonsoir.
Bonsoir.
Le président allemand a donc entamé ses consultations aujourd'hui.
Et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, aura bien besoin de toute son expérience diplomatique pour renouer le dialogue. Il a reçu déjà les dirigeants des Verts et des Libéraux aujourd'hui, après l'échec de leur tentative de coalition avec Angela Merkel. Et puis jeudi, ce sera au tour de Martin Schulz, le chef du SPD. Les sociaux-démocrates ne veulent toujours pas d'une nouvelle grande coalition avec les conservateurs, mais la pression est sur les épaules de Martin Schulz. Son refus catégorique ne fait pas l'unanimité dans son parti et Frank-Walter Steinmeier, lui-même social-démocrate, ne perd pas espoir de le faire changer d'avis. Dans le camp d'Angela Merkel, là aussi, on s'active pour tenter de s'épargner de nouvelles élections très risquées politiquement, même si la chancelière s'est dite prête à candidater à nouveau. Deux poids lourds de la CDU ont pris la parole aujourd'hui pour rappeler tout le monde à la raison. D'abord, Peter Altmaier, l'ancien bras droit d'Angela Merkel à la chancellerie, actuel ministre des Finances par intérim. Il estime que les trois prochaines semaines doivent permettre de clarifier si il est possible de former un gouvernement. Ensuite, Wolfgang Schäuble, le président du Bundestag, a lancé cet appel à tous les partis à la tribune du Parlement. Nous portons la responsabilité de notre pays. L'Europe a besoin d'une Allemagne stable.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin. L'Assemblée approuve en première lecture le projet de budget 2018. Le texte a été approuvé à une large majorité, 356 voix pour, 175 contre. Le Sénat entamera jeudi l'examen de ce texte, dont l'adoption définitive devra intervenir au plus tard le 22 décembre. Mission déminage pour Édouard Philippe au Congrès des maires de France. Après des mois de tensions entre les élus locaux et le gouvernement, le Premier ministre est venu faire de la pédagogie. Il est revenu sur tous les sujets qui fâchent, les économies à faire, les emplois aidés, le logement social. Édouard Philippe a expliqué point par point les mesures prises, un discours qui a partiellement rassuré les élus, Stéphane Romère.
Oui, c'est ce qu'on a pu constater à la fin de son discours. Édouard Philippe a été applaudi par une salle plutôt bien remplie. Alors, bien sûr, vous l'entendez, ce ne sont pas des applaudissements francs, massifs, pleinement convaincus, mais tout de même, on était là, assez loin de l'accueil glacial qu'avait reçu Édouard Philippe au Congrès des régions de France il y a seulement quelques semaines. Et ce qui a été salué là, c'est sans doute l'effort de pédagogie dont vous parliez, auquel s'est livré le Premier ministre.
Nous voulons limiter la hausse des dépenses publiques locales. Nous voulons limiter la hausse des dépenses publiques locales. Nous ne demandons pas qu'elles diminuent. Peut-être certains ont-ils pensé que c'était le sens qu'il fallait donner au chiffre de 13 milliards évoqué par le président de la République. Je le redis, Nous ne voulons pas que les dépenses diminuent, nous voulons que cette hausse soit maîtrisée.
On entend le ton très didactique employé par Édouard Philippe. Son discours a duré une heure. Il a abordé à peu près tous les sujets. Les emplois aidés, oui, ils seront limités, remplacés par des investissements en direction de la formation. La taxe d'habitation, elle sera compensée. Les déserts médicaux, oui, c'est un problème, a-t-il reconnu, mais on ne forcera pas les médecins à s'installer là où ils ne veulent pas aller. Résultat, pas d'emportement, pas de grogne, pas de colère. Certains se disaient même plutôt convaincus.
Très franchement, je l'ai trouvé rassurant et je l'ai trouvé courageux.
D'autres étaient plus dubitatifs, reconnaissant quand même au Premier ministre une sensibilité aux problématiques locales.
Sensible, oui, il est. Il ne faut pas oublier qu'il était le maire jusqu'à très peu encore. Effectivement, il connaît ces problématiques, mais il est coincé. Il est coincé par sa fonction de Premier ministre et surtout par les 3%, par le budget.
Au bout du compte, on ne peut pas dire qu'il a pleinement rassuré, mais Édouard Philippe a globalement fait le job. Maintenant, ce qu'attendent tous ces maires, c'est surtout ce que leur dira Emmanuel Macron jeudi. Cet été, le chef de l'État en avait énervé et agacé plus d'un en estimant qu'il y avait trop d'élus locaux.
Stéphane Robert et Édouard Philippe va en énerver quelques autres car il n'est pas un adepte de l'écriture inclusive qui vise à accorder plus de femmes au féminin dans la langue française. Dans une circulaire à l'attention des ministres, le chef du gouvernement leur demande de ne pas y recourir, dans les textes officiels en tout cas. Il explique que les administrations relevant de l'État doivent se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de la norme. Christophe Castaner va-t-il rester dans le gouvernement maintenant qu'il a pris la tête de La République En Marche? On devrait le savoir dans la soirée, tout comme le nom du nouveau porte-parole du gouvernement. 470 associations et collectifs citoyens ont lancé aujourd'hui les états généraux des migrations. Réunis par une tribune écrite en juin dernier, elles appellent le gouvernement à changer sa politique migratoire, notamment en prenant en compte ces acteurs de la société civile qui accueillent eux-mêmes des exilés et des migrants. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Alors ces associations de terrain dénoncent, je cite, un affolement sécuritaire du nouveau gouvernement et elles veulent faire passer un autre message.
J'étais sur l'autoroute et j'ai vu une dizaine de jeunes qui marchaient sur la bande d'arrêt d'urgence alors qu'il faisait nuit. Donc je me suis arrêté pour leur dire que c'était très dangereux. Et là, j'ai vu sortir des fourrés, des militaires qui ont hurlé, armes au poing. Donc vraiment une scène de guerre.
Pierre-Alain Manoni a 46 ans, il est ingénieur à l'université de Nice et il fait partie du collectif Solidarité Migrants 06. Il a été condamné en septembre dernier pour avoir aidé trois femmes érythréennes qu'il avait hébergées chez lui. Alors, comme la plupart des petites associations qui se sont regroupées dans ces états généraux des migrations, il dénonce le durcissement policier de la politique d'Emmanuel Macron à la frontière italienne. Et le pire, c'est que c'est de la com, rajoute aussi Cédric Héroux, lui aussi condamné pour avoir aidé des migrants.
Vous savez, les gens, quand ils voient tous ces militaires avec des armes, des FAMAS, des automitrailleurs, on se dit, l'État ne fait pas ça pour rien. Il y a forcément un danger. Et vous voyez, dans la vallée de la Roya, rien que pour le contrôle aux frontières qui ne marche pas, les gens passent de toute manière, il y a 60 000 euros dépensés par jour. Donc, est-ce qu'on peut pas faire autre chose avec ces 60 000 euros? Je sais pas, il y a une inondation et l'État est en train de lutter contre l'inondation avec un parapluie. C'est complètement stupide. Je pense que le terrorisme, on le fabrique avec ce qu'on est en train de faire là maintenant. Moi, j'ai vu des gamins qui ont été retournés en Italie des dizaines et dizaines de fois, qui sont pas pris en charge, qui dorment dehors, qui vont pas aller. Qu'est-ce que vont devenir ces gamins? Est-ce que l'État n'est pas en train de construire des bombes à retardement en fait?
Alors il faut changer de paradigme, répètent ces associations de terrain qui ont demandé sans succès à être entendues par le gouvernement et surtout associées à la future nouvelle loi sur l'immigration qui est prévue pour début 2018. Car ce que prévoit pour l'instant Emmanuel Macron avec cette loi, c'est de tout accélérer, traiter encore plus rapidement les demandes d'asile pour pouvoir expulser encore plus rapidement les étrangers qui sont déboutés. De quoi a révolté Michel Rousseau qui a monté il y a 2 ans à Briançon le mouvement citoyen Tous Migrants.
Pendant longtemps, le mouvement social, il se battait pour des droits nouveaux. Là, depuis 10 ans, on se bat pour que les droits actuels soient appliqués. Là, ce dont on parle, c'est d'un État hors la loi. C'est nous, les citoyens, qui sommes dans la loi. On a une capacité en France actuellement à accueillir tous les migrants qui frappent à notre porte. On en a accueilli, je le rappelle, 800 000 en 2 mois, en mai-juin 1962. Aujourd'hui, c'est pas du tout 800 000 personnes qui frappent à notre porte, c'est quelques dizaines de milliers. Alors, de quoi a-t-on peur ?
Les 400 associations réunies dans ces états généraux des migrations comptent donc maintenant œuvrer via les médias, pour changer les clichés, pour changer les idées de l'opinion publique sur l'immigration, afin de forcer, disent-elles, le gouvernement à respecter au moins son engagement d'accueillir les 30 000 migrants prévus en 2015, alors que la France n'a accueilli pour l'instant que 5 000 personnes.
Merci Cécile de Kervas-Doué. Une illustration parmi tant d'autres des situations qui hérissent les associations de soutien aux migrants. En Espagne, près de 500 migrants arrivés par bateau ont ont été envoyés directement en prison. Alors, pas par volonté de les enfermer, explique le ministère de l'Intérieur, mais parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place dans les centres de rétention administrative. Ces personnes, algériennes pour la plupart, ont donc été accueillies dans des cellules d'une prison qui n'avait pas encore été inaugurée. Mathieu de Taillac.
La loi espagnole interdit explicitement que des migrants soient placés en prison dans l'attente d'une décision sur leur statut administratif, droit d'asile ou autre. Les juges eux-mêmes, qui ont accepté la proposition du ministère de l'Intérieur d'y envoyer 464 migrants, rappellent cette prohibition et renomment la prison d'Archidona le centre de rétention administrative d'Archidona. En réalité, Archidona, dans la région de Murcie, n'est pas un centre de rétention administrative, le lieu où devraient se trouver les migrants selon la loi, mais le bâtiment n'est pas encore une prison, car cette dernière n'a pas encore été inaugurée et aucun délinquant n'y a donc été enfermé. C'est cette ambiguïté que le ministère de l'Intérieur espagnol utilise pour transformer la future prison en centre de rétention administrative provisoire. Le ministre a eu cette explication surprenante. Il est beaucoup mieux de placer les migrants dans un centre doté des dernières technologies, équipé d'une infirmerie, de douches, de vestiaires, de chauffage, de lits, de télévision et de terrains de sport, plutôt que dans des campements comme le font d'autres pays. Fin de citation. Des explications qui n'ont convaincu ni l'opposition de gauche, Parti Socialiste et Podemos, qui dénoncent une illégalité, ni les ONG qui portent assistance aux migrants.
Mathieu de Taillac, à Madrid et sur la gestion des migrants, n'hésitez pas à écouter le magazine de la rédaction de vendredi dernier, quand des mineurs africains sont abandonnés dans la montagne, un reportage de Raphaël Kraft. Manifestation cet après-midi à Saint-Denis à l'appel de l'association Droit au Logement. Elle demande un hébergement pour l'ensemble des habitants qui se trouvaient au 48 rue de la République, là où, il y a tout juste 2 ans, avait eu lieu l'assaut contre les terroristes. L'immeuble a été évacué, mais depuis, tout le monde n'a pas été relogé. Reportage sur place d'Antoine Marette.
Héberger les 5 sinistrés! Héberger les 5 sinistrés!
5 sinistrés du 48 rue de la République sont désormais sans logement. C'est le cas de Messaoudi Laïd. Pendant 1 an et demi, il a été logé au Campanile de Saint-Denis. Et puis cet été, il a reçu une lettre lui demandant de quitter l'hôtel.
Moi, je ne veux pas quitter. J'ai resté dans l'hôtel. Puis l'hôtelier, il m'a dit, voilà, il n'y a personne qui te paye pour toi. Il a changé le code. Maintenant, je dors dans une voiture, il fait froid et je suis vieux.
Mais Saoudi Laïd a 62 ans. Comme les 4 autres personnes évacuées qui sont désormais sans abri, il est célibataire. Mais la préfecture a invoqué d'autres raisons à la mise à la rue de son hôtel. Marie Huiban est militante au DAL.
On lui reproche de ne pas avoir fait assez de démarches vers l'emploi, sachant que ce monsieur a quand même 62 ans, donc à un moment, il faut aussi raison garder à ce sujet. Et en plus, ce monsieur était un habitant du 48. C'est dans le cadre de l'assaut antiterroriste qu'il a perdu son logement. Donc aujourd'hui, il est normal que l'État l'héberge et lui trouve un logement, et ça doit être inconditionnel.
Et c'est devant les fenêtres de la sous-préfecture de Saint-Denis que la trentaine de manifestants a demandé un logement pour ces 500 abris délogés par l'assaut du 18 novembre 2015. Sur les ménages qui vivaient au 48 rue de la République, 2 ans après, seule la moitié a retrouvé un logement pérenne.
Mieux cerner la société française, c'est l'ambition de l'INSEE avec sa publication annuelle France Portrait Social. Dans son édition 2017, l'Institut de la Statistique se penche sur les unions libres, sur l'emploi salarié et sur les réformes des prestations. Et surtout, l'INSEE donne un coup de projecteur sur les ménages à niveau de vie médian, ni riche ni pauvre, mais situés au milieu de l'échelle des niveaux de vie en France et souvent peu étudiés, Catherine Pétillon.
Qui constitue ces presque 19% de la population que représentent les ménages médians, eh bien cette catégorie rassemble des profils hétérogènes, même si c'est celle où l'on trouve le plus de familles avec au moins un enfant. Du côté de l'emploi, si la moitié d'entre eux sont en CDI, en termes de profession, ils sont en revanche plus proches des catégories les plus modestes. Peu diplômés, ce sont à 61% des ouvriers ou des employés, seuls 7% sont des cadres. Et en 10 ans, on y a vu apparaître un certain nombre de professions qui s'éloignent donc peu à peu des catégories les plus aisées. C'est le cas par exemple des professions intermédiaires de la fonction publique, dont le niveau de vie évolue moins bien que celui du reste de la population, et des professions de l'information, des arts et des spectacles. Autre caractéristique, avec en moyenne 1680 euros par mois, ces ménages sont ceux qui en France vivent le plus de leur travail. Cela représente 72% de leurs revenus disponibles, ce qui contraste avec le patrimoine qui ne représente lui que 4%. Conséquence, ces ménages sont moins impactés par les effets de la crise, mais aussi plus en difficulté que la moyenne. 66% d'entre eux se déclarent en difficulté financièrement, c'est 5 points de plus que l'ensemble de la population. Il faut dire que la majeure partie de leurs dépenses sont difficilement compressibles, constate l'INSEE. Elles concernent le logement, l'eau, l'électricité ou encore l'alimentation. Dans ce contexte, ils peinent à faire face à des dépenses exceptionnelles. Un ménage médian sur quatre n'est pas en mesure de remplacer des meubles, d'acheter des vêtements neufs ou de partir en vacances.
Du soleil demain sur l'Hexagone, mais dans l'après-midi, pluie et vent réapparaîtront en Bretagne et tout le nord-ouest sera concerné en fin de journée. Les températures vont remonter, il fera 11 à 18 degrés demain après-midi, jusqu'à 21 dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.